d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, ce soir animée par les journalistes du PIAF et des membres d'ATTAC.
Et ce soir, beaucoup de chroniques différentes en réaction entre autres à l'actualité. Et l'actualité du jour, c'est le 11 novembre. Alors le 11 novembre, c'est des commémorations à travers la France. Une certaine commémoration est oubliée, elle a eu lieu par exemple ce matin devant la mairie du 11e arrondissement. Elle aura lieu aussi dans pas mal de villes aujourd'hui et demain. C'est la commémoration des fusillés pour l'exemple. En 1914, évidemment, il y a eu 195 000 soldats jugés face à la justice militaire, 2500 condamnés à mort et 639 fauchés par des balles françaises par les pelotons d'exécution pour l'exemple. D'autres sont allés blanchir leurs os de squelettes dans les bagnes d'Afrique du Nord. Dès septembre 1914, il y a eu des condamnations pour ces assassinats légaux et réclamant l'ouverture de procès pour ces meurtres d'hommes pour l'exemple, pris au hasard dans les troupes. Il a fallu attendre même les mutineries de 1917, la hiérarchie militaire n'ayant pas eu son compte de sang. Il y a encore une quarantaine de fusillés pour l'exemple dans les années 30 seulement, qui ont été réhabilités. Il en reste ainsi 600 dont l'honneur n'a pas été rétabli, et la justice humaine exige que 639 fusillés pour l'exemple soient naturellement réhabilités. Ils avaient le droit de dire non à la guerre. Alors, cette libre pensée est portée par le Mouvement pour la paix, l'Association républicaine des anciens combattants, l'Union pacifiste de France, de nombreuses sections de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Et n'hésitez pas, c'était ce matin, mais c'est aussi demain, dans pas mal de lieux en France, vous pouvez trouver ça sur Réhabilitation collective des 139 fusillés, pour l'exemple, d'aller porter cette idée. Alors, cette idée, on en a une autre vision du 11 novembre, parce qu'il faut aussi parfois célébrer les vainqueurs, mais aussi célébrer les vaincus. Patrick.
In memoriam, in memoriam. Naître un 11 novembre, même s'il faut bien naître un jour, se faire appeler Victor, Victoire, même s'il faut bien s'appeler quelque chose, merci papa, maman. Pas un nom qu'on porte, mais un nom qui vous porte à faire du zèle, à devenir, par exemple, artiste, pour l'exemple, et à préparer lentement, patiemment, pacifiquement, un bel événement. Pour 2018, par exemple, ou déjà 2016. Une belle installation, que dis-je, 10, 20 dans tout Paris, dans toute la France, au pied des monuments à la victoire, à toutes les victoires, pour son joyeux anniversaire et pour tous les anniversaires. À eux, les poilus, les hispides, à vous, les rasés, morts en loques, à moi, glabres, imberbes, vivant encore, à eux les armurés, les perruqués, les casquettés, les casqués, morts en loques, les sabreux, les baïonnetteux, les gazeux, les lance-flammeux, à eux les mitrailleux, les canonneux, les bazouqueux, les mineux, les tanqueux, à vous tous, les caquisés, les treillisés, les cambouisés, les naturisés, les déguisés, les surinformatisés, surélectroniqués, les destroyers, les cuirassés, les sous-mariniers, les chasseurs, les bombardeurs, les parachutés, mourant en loques. À elles, à vous toutes, les femmes, mourant en viol, mourant en cloques. À vous tous, mâles et femelles, enfants des deux sexes. Pour vous tous, j'érigerai un monument. Gloire et honneur à nos vaincus. À tous les corps sanguinolents qui ont fertilisé le sol des Alésias, Roncevaux, Crécy, Azincourt, Aboukir, Trafalgar, Waterloo, Sedan, Dien Bien Phu, etc. Un gros, un grand, etc. etc. Voici la terre qui vous a englouti en loques, en cloques, en cloaque, au fond de la glèbe, au fond des fonds marins, au fond de l'oubli, du mépris.
Une joyeuse commémoration, 11 novembre à tous. Alors, dans les joyeuses commémorations, bah, cette semaine sera marquée d'une drôle de sensation, un basculement brutal aux États-Unis. Et Alex va nous parler, à son tour, de Trump.
Ouais, voilà. Alors, on m'a dit, il faut pas en parler. Mais bon, voilà, je me suis décidé. Je me suis posé la question que tout le monde s'est posée, hein, comment les Américains sont parvenus à élire président un type comme Trump ? Comment cet escroc raciste, misogyne, inculte, réactionnaire, qui culminait à 3% d'intention de vote quand il s'est lancé dans la course aux primaires du Parti républicain, il y a un peu plus d'un an, a réussi à se faire élire président. Était lâché par les principaux dirigeants de son propre parti, devancé dans les sondages. En principe, il n'avait aucune chance de gagner. Et non seulement il a gagné, mais il a gagné largement. Alors évidemment, depuis deux jours, bah, je suis pas le seul à me poser la question, donc on a des tas d'explications qui nous viennent pour essayer d'expliquer cette résistible ascension. Et parmi les très nombreuses explications du phénomène, il y en a une qui revient en boucle et qui mérite, en tout cas c'est mon choix, qu'on s'y intéresse, c'est la question du populisme. Alors, les sociétés modernes seraient caractérisées par une montée du populisme dont Trump sera la dernière incarnation. Il serait en fait la version américaine de Berlusconi, juste un peu plus raciste et un tout petit peu moins bunga bunga. Le problème, évidemment, de cette explication, c'est qu'elle est très superficielle et qu'en fait, si on creuse, ce qu'on va essayer de faire un petit peu là, on se rend compte qu'elle a de bonnes chances d'être fausse. Dire que Trump a gagné à cause d'une montée du populisme, ça revient à croire qu'il suffit de se dire anti-système, de dénoncer les médias et d'insulter ses adversaires à longueur de débat pour se faire élire. Si c'était suffisant, la famille Le Pen serait au pouvoir depuis longtemps en France et Dieudonné serait ministre de la Culture. Incriminer le populisme, c'est aussi un moyen de refuser de comprendre ce qui se passe dans la tête des électeurs et en particulier ce qui se passe dans la tête des électeurs qui proviennent des milieux populaires. Et là, je vais prendre un temps, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais je voudrais rendre une sorte d'hommage, même s'il n'est pas mort, à Michael Moore, qui lui a montré une certaine lucidité et justement une certaine compréhension des phénomènes électoraux. Donc il a essayé de sortir des clichés habituels et tenter de comprendre pourquoi Trump pouvait plaire.
On rappelle Michael Moore, le cinéaste américain qui a fait les
cinéaste,
films comme
réalisateur,
de la
Fille 101, écrivain,
comme Columbine,
exactement,
et, etc.
Voilà. Et donc avec beaucoup de lucidité, il a essayé d'expliquer pourquoi des électeurs des classes populaires, dans des États acquis depuis longtemps aux démocrates, pas spécialement racistes, allaient voter Trump le jour de l'élection. Et dès juillet, il avait expliqué que Trump allait gagner cette élection. Alors Michael Moore, il vient de Flint, dans le Michigan, une ville qui vivait de l'industrie automobile et qui s'est brutalement effondrée quand la General Motors a fermé une usine employant 30 000 ouvriers du jour au lendemain. Comme Détroit, comme un certain nombre de villes de la Rust Belt, la ceinture de rouille autour des Grands Lacs, Flint est une ville sinistrée. Les bâtiments publics et les infrastructures ne sont plus entretenus, les classes moyennes sont allées s'installer en banlieue ou ont quitté l'État, et la pauvreté a explosé. À Flint, comme dans le reste de la Rust Belt, on vote traditionnellement démocrate quand on vote. Pour autant, depuis Roosevelt, il n'y a pas un seul démocrate qui n'ait fait grand-chose pour améliorer la situation. Le parti démocrate, dans ces états désindustrialisés du Nord, vit sur le souvenir du New Deal, un souvenir qui quand même a à peu près 80 ans maintenant. Quand Trump a prétendu dans sa campagne qu'il mettrait fin aux accords de libre-échange, aux délocalisations, à la concurrence des immigrés clandestins, et qu'il allait réindustrialiser l'Amérique, bah ça leur a plu. D'autant plus qu'en face, il y avait Hillary Clinton, la femme de l'ex, celui qui a mis en place l'ALENA, qui a favorisé la déréglementation de la finance, qui a choisi des banquiers de Goldman Sachs pour s'occuper de l'économie. Toutes choses qui ont contribué à transformer la région des Grands Lacs en cette fameuse ceinture de rouille de la Rust Belt. Les électeurs de Trump provenant de ces régions ne sont pas tous des abrutis racistes et misogynes. Mais la situation de pauvreté et de précarité dans laquelle une partie d'entre eux sont, le contexte déprimant dans lequel ils vivent, les valeurs qu'on leur a inculquées, en particulier l'idée, et ça c'est très important, qu'on ne peut pas vivre dignement si on n'a pas un travail rémunéré correctement à temps plein, les amène à avoir une perception différente du mérite comparé des deux candidats, et une perception très différente de celle notamment des élites cultivées de la côte Est. Et dire ça, c'est pas émettre un jugement de valeur, c'est pas les juger eux, c'est pas juger les élites de la côte Est, c'est simplement enregistrer un fait. On peut le présenter d'ailleurs en regardant les résultats électoraux de manière encore beaucoup plus brutale, Si on prend les résultats, là, j'ai vérifié ça tout à l'heure, à Washington DC, donc 2016, la capitale, Hillary Clinton a eu 92% des voix, Washington DC. Trump, 5%. Dans le Michigan, dans le comté de Genesee, où se trouve la ville de Flint, Hillary Clinton a eu 54% des voix, alors que 4 ans auparavant, Obama en avait eu 63, quand a perdu 9 points. Et cette chute brutale du vote en faveur des démocrates dans des bastions comme Flint a fait basculer le Michigan ainsi que 4 autres États de la Rust Belt, comme l'avait prédit Moore, du côté de Trump. Mais le cœur de l'électorat de Trump, ce ne sont pas les ouvriers du Nord. Ce ne sont pas les ouvriers du Nord qui sont lassés d'attendre que les démocrates se réveillent, s'occupent un peu d'eux, et qu'un nouveau Roosevelt apparaisse. Le cœur de son électorat sont les habituels électeurs du Parti républicain. Ce sont des blancs de classe moyenne, ayant fait peu d'études supérieures, plutôt des hommes que des femmes, vivant plutôt dans des zones rurales ou périurbaines. Ces commerçants, ces agriculteurs, ces retraités, ces employés, ces petits cadres, ils ont appris depuis 40 ans et depuis l'élection de Reagan à ne rien attendre de l'État, sinon des baisses d'impôts et plus de flics. Ils sont honnêtes et travailleurs, ils ont de la décence, des convictions morales fortes. La vulgarité et le racisme de Trump les choquent moins que la perspective qu'une vieille politicienne corrompue et opportuniste comme Hillary Clinton prenne la tête du pays. Et le tour de force de Trump est là. Il a su conserver sa base républicaine et s'adjoindre une armée de réserve électorale parmi les blancs pauvres et précaires du nord désindustrialisé. Et tout ça, ça a permis justement d'avoir les fameux 4 États de la Rust Belt qui lui a permis de gagner l'élection. Tout ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le populisme. Si on considère, c'est la définition habituelle qu'on va donner du populisme, qu'un politicien est populiste à partir du moment où il appelle à renverser les élites, à combattre le système, alors tous les candidats républicains, depuis Reagan, sont populistes. L'anti-intellectualisme, la haine des fonctionnaires, qui sont forcément incompétents et gauchistes, la haine du gouvernement, la haine de Washington et de la côte Est, c'est la base idéologique qui cimente le parti républicain depuis 40 ans. Trump a été élu malgré sa vulgarité, malgré son racisme, sa misogynie, plutôt que grâce à elle. Le taxer de populisme à cause de son comportement est stupide. C'est pas stupide parce que ce comportement serait pas condamnable, il est évidemment condamnable, totalement condamnable. Mais parce que ça explique absolument rien. Ça relève juste le fait qu'il fait peur aux élites, que celles-ci se sentent menacées par son discours et par sa posture, qu'elles peuvent pas se reconnaître en lui. Et on pourrait d'ailleurs définir le populisme comme une catégorie inventée par les membres de l'élite, et ça c'est vrai à la fois pour la France et les États-Unis, pour caractériser les discours et les comportements politiques dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et qui les mettent mal à l'aise. Pour dire ça en termes un peu savants, l'utilisation du terme populisme, c'est une manière savante et sophistiquée d'ethnocentrisme de classe. Autrement dit, une manière de dire que ceux qui n'adoptent pas les manières de penser et de se comporter des élites sont des péquenauds. Mais ce qui est l'avantage d'utiliser le terme populiste, c'est que ça se voit pas. Voilà.
Belle analyse, monsieur Alex. Alors, pour renchérir sur qui a le premier prédit l'élection de Trump, alors tu parles de Michael Moore, moi je vais remonter à 1978 avec Luc Plamondon, qui a écrit la comédie musicale Starmania, qui a été, elle, mise en musique par Berger, Michel Berger. Et dans dans cette comédie musicale Starmania, il y a le meeting de 0 janvier. Et écoutez bien les paroles.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Alors en septembre, nous avons reçu sur cette antenne Arnaud Apotheker, co-organisateur du tribunal Monsanto, qui s'est tenu du 14 au 16 octobre à La Haye. Un tribunal citoyen, donc entre guillemets un faux tribunal, mais avec des vrais magistrats et de vrais témoins, pour juger Monsanto pour l'ensemble de son œuvre. Cette semaine, j'ai interrogé Arnaud Apotheker sur le bilan de ce procès symbolique et sur les suites de l'action.
La première impression qu'on a autour de l'événement lui-même, qui consistait en 2 jours d'audition de témoins du monde entier et une assemblée des peuples qui permettait de réunir les ONG impliquées sur les sujets de l'agriculture, de l'alimentation, s'est très bien passé. Les deux salles que nous avions, celle du tribunal et puis celle de l'assemblée des peuples, étaient pleines pendant les 4 jours, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Il y a eu également beaucoup de journalistes qui sont venus écouter les juges et les témoins au tribunal. Et il y a eu beaucoup de retombées dans les médias, non seulement en France, mais en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc on peut dire que cette première étape s'est très bien passée et a abouti au résultat escompté. On a permis à des témoins qui jusqu'à présent n'avaient jamais été écoutés de s'exprimer, et de s'exprimer devant des vrais juges dans le cadre d'un tribunal, même si c'est un tribunal symbolique. En ce qui concerne les témoins, et beaucoup nous en ont fait part par la suite, ça a été extrêmement important pour eux, émouvant et très fort, de pouvoir parler, s'exprimer, et de ne pas avoir cette impression qu'ils avaient avant ce tribunal, de se confronter à un mur, c'est-à-dire de ne pas savoir à qui se plaindre, de ne pas savoir à qui parler de ses problèmes, et de se sentir totalement impuissant par rapport aux ravages que leur faisait subir Monsanto.
Est-ce que ces témoignages ont permis de mettre en évidence le fait que c'était Monsanto qui était réellement responsable des préjudices subis ?
C'est une question intéressante et assez difficile sur laquelle on doit répondre. Parce qu'il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'un tribunal pénal. On ne demande pas, en quelque sorte, on n'évalue pas d'un point de vue monétaire les dégâts commis par Monsanto, et on ne demande pas des réparations à cette compagnie. Il s'agit d'un tribunal qui fonctionne comme une cour internationale de justice à qui on demande un avis consultatif sur une question légale. Donc il ne s'agit pas simplement de dire Monsanto a répandu X millions de tonnes de produits polluants ou a utilisé X millions d'hectares d'OGM et donc est responsable de ceci ou de cela. C'est plutôt est-ce que dans ses activités, il y a eu une culpabilité dans des atteintes à des droits humains. Est-ce que Monsanto a enfreint les droits à la population, à une alimentation saine, à un environnement sain, à la santé, à la liberté de recherche? Donc les témoignages ne répondaient pas directement à ces questions. C'était des témoignages d'individus, de personnes qui eux-mêmes avaient subi les conséquences d'actions de Monsanto. C'était pas des documents scientifiques avec des liens de cause à effet. Ce sont des gens qui se sont trouvés malades, soumis à des pressions, contaminés par les activités de Monsanto et qui ont témoigné de cet acte de fait. En fonction de ces témoignages, les juges vont se poser des questions de droit, c'est-à-dire en utilisant, mais pas de façon directe, en utilisant le fait qu'effectivement des fermiers, par exemple des paysans du Burkina Faso, n'ont pas pu vendre leur coton. Et donc les juges vont se prononcer sur est-ce qu'effectivement il y a eu des atteintes à l'existence de ces paysans. Les juges ne vont pas faire une sorte de bilan de toutes les atteintes qu'il y a eu, mais simplement de voir si, effectivement, en fonction de ces témoignages, ça peut renforcer une analyse de texte juridique sur la culpabilité de Monsanto vis-à-vis des droits.
Alors, les juges doivent rendre leur avis en décembre. Le tribunal devait statuer sur 6 questions que tu as déjà évoquées. Donc, est-ce que Monsanto a violé le droit humain à vivre dans un environnement sain ? Est-ce qu'il a violé le droit à s'alimenter, le droit à la santé ? Est-ce qu'il a violé la liberté de recherche ? Est-ce qu'il est complice de crimes de guerre ? Et est-ce qu'il est coupable d'écocide ? Est-ce que tu penses que l'ensemble des témoignages qu'il y a eu à ce procès va permettre au juge de statuer sur ces 6 points ?
Alors, une petite précision, effectivement. D'abord, les opinions juridiques consultatives que vont remettre les juges, ça ne sera pas le 10 décembre, comme nous le prévoyons. C'est à la fois un bien et un mal, mais cela montre à quel point les juges se sont emparés de ces questions et veulent faire un travail rigoureux, exhaustif et sérieux. leur décision finalement ne sera remise qu'au mois d'avril. Il faut 4 ou 5 mois de réflexion. Alors, il faut bien voir que ce ne sont pas les témoignages en eux-mêmes qui vont amener la décision des juges. On a fourni aux 6 juges des mémos juridiques qui examinent ces 6 questions au regard des textes de loi. Les témoignages vont être des illustrations qui vont aider les juges à s'orienter, mais ce ne sera pas la base de leur travail. Les juges vont avoir ces témoignages en tête et ça va leur permettre de déchiffrer en quelque sorte les textes légaux existants ou qui ne sont pas encore existants mais dont on discute, et en particulier quand on a parlé de cette notion d'écocide. Aujourd'hui, le crime d'écocide n'est pas reconnu dans la loi internationale, donc les juges vont faire un exercice prospectif. Si l'écocide était reconnu, comme le réclame par exemple l'association End Ecocide on Earth, comme 5e crime contre la paix par la Cour pénale internationale, avec la définition et les amendements au texte de statut de Rome qu'a proposé End Ecocide, en fonction de cette définition et de ces amendements, est-ce que Monsanto serait coupable d'écocide ? Oui, je crois que les témoignages sont utiles. Parce que si l'on parle, par exemple, d'un produit dont on a beaucoup parlé au moment de ces témoignages, le Roundup, qui est l'herbicide phare de la compagnie Monsanto, l'herbicide le plus vendu au monde, dont on retrouve les molécules sur toute la planète, y compris dans nos propres cellules, à nous, qu'on mange bio ou pas, on respire du Roundup, parce qu'il y en a dans l'atmosphère, il y en a dans les sols, il y en a dans toute l'alimentation. Le Roundup est toxique pour les sols, il est toxique pour les plantes, il est toxique pour les animaux, il est toxique pour les êtres humains en bout de chaîne. Donc cela répond, par exemple, à la définition d'écocide. Ce sont l'ensemble de ces témoignages qui vont montrer que les produits de Monsanto ont un impact global à tous les niveaux des écosystèmes.
Tu as parlé tout à l'heure des retombées médiatiques de ce procès, avec des médias largement présents et des articles dans tous les journaux, y compris la presse régionale, des reportages dans les médias radio et télé. Au-delà des retombées médiatiques, est-ce qu'on peut déjà sentir des retombées en termes juridiques ou en termes de perception par le grand public ou en termes de relations des entreprises de l'agrochimie avec ce genre de sujet?
On peut dire qu'il y a déjà des choses qui ont avancé, on peut le dire de façon un petit peu indirecte, tout simplement parce que Monsanto a réagi de façon extrêmement nerveuse, si je puis dire, à ce tribunal, d'une part avant le tribunal, en l'accusant d'être un faux tribunal. On n'a jamais dit d'ailleurs qu'il s'agissait d'un vrai tribunal, mais là ils utilisent des termes, le faux tribunal, the mock tribunal, enfin la farce du tribunal. Donc Monsanto s'est senti obligé de réagir, et y compris avec pas mal de maladresse et en essayant de délégitimer l'ensemble du processus, puisque c'est pas un processus formel. Comme le disait malgré tout Corinne Lepage, le tribunal est virtuel, mais le droit est réel. On va s'appuyer sur du droit et on le fait avec des vrais juges. La réaction de Monsanto montre qu'on a sans doute touché un point assez sensible. Monsanto avait, sur un de ses blogs, accusé la présidente des juges de faire partie du comité d'organisation, avec la question « comment est-ce qu'on peut croire en ce tribunal ?». Cette page a été retirée dès le lendemain, puisqu'effectivement, Mme Tulkens, la présidente du panel des juges, a écrit immédiatement en demandant d'où venait cette information qui était manifestement fausse, et toute la page est partie. Mais on sent une certaine nervosité. On le sent aussi parce que toutes ces questions, je dirais, de responsabilité des multinationales, par rapport à l'environnement, à la santé, à l'alimentation, aux droits humains, on pourrait dire de façon générale, sont des préoccupations de plus en plus prégnantes, peut-être pas encore dans le grand public de façon générale, mais malgré tout, on y vient de plus en plus de citoyens s'inquiètent, s'étonnent que des multinationales puissent faire de tels dégâts sans être poursuivies, sans être condamnées. Donc, les choses, je dirais, avancent, et ce tribunal permet aussi à l'opinion publique de se rendre compte qu'il faut avancer, parce que aujourd'hui le droit n'empêche pas ce type de dégâts. Ce n'est pas que le tribunal qui fait ça. Hein. La semaine après le tribunal, il y avait une réunion aux Nations Unies qui devait discuter de textes qui définissait la responsabilité des entreprises transnationales vis-à-vis des droits humains. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans l'histoire. Le tribunal est à un moment très important parce que justement ces questions commencent à être mises sur la table. Il y a véritablement toute une incertitude juridique et même une impossibilité aujourd'hui sur comment on poursuit.
Alors on attend beaucoup évidemment du verdict des juges qui aura sûrement des conséquences sur le droit international. Est-ce que parallèlement à ça, les organisateurs prévoient d'autres actions pour poursuivre le mouvement engagé ?
Oui, alors il y a deux types d'actions qui maintenant devront être un petit peu précisées. Et puis il y a toujours derrière évidemment la question financière. Hein. Nous avons besoin de dons pour continuer à avancer. Mais l'un des points, effectivement, peut-être pas le tribunal Monsanto en tant que tel, en tant qu'entité, mais l'idée c'est aussi d'aider à ce que effectivement le crime d'écocide soit inclus dans les statuts de Rome. Et ça, c'est un travail malgré tout de longue haleine, parce que ça doit être fait avec l'assentiment de l'ensemble des parties au statut de Rome, c'est-à-dire des 100 et quelques pays qui forment la CPI. Il faut d'abord que la proposition d'amendement, la proposition d'introduire le crime d'écocide soit proposée par un ou un groupe de pays et ensuite acceptée. Donc on en est vraiment au début du travail, même si un pays... et là j'ai un trou, je ne me souviens plus lequel, a déjà le crime d'écocide dans sa constitution et que d'autres pays l'envisagent. Et j'espère, bien entendu, et c'est un des buts de ce tribunal, que l'opinion juridique rigoureuse faite par les juges sur l'écocide permettra de convaincre des pays de l'introduire. Comme on le disait avant cette émission, la procureure de la CPI a proposé que la CPI donne plus d'importance aux crimes environnementaux, condamne plus fermement les crimes environnementaux. C'est aujourd'hui un simple rapport de politique de la CPI. Il faut espérer que cela traduise réellement un changement d'attitude de la part des juges de la CPI afin que ces questions environnementales rentrent dans leur radar. Aujourd'hui, la CPI, c'est historique, c'est pas anormal, c'est beaucoup sur les crimes de guerre. Ce tribunal rentre vraiment dans un processus historique puisqu'il s'est fait en même temps que cette volonté d'ouverture qu'a manifesté la procureure de la CPI. Et effectivement, le fait que ces deux événements aient lieu à peu près simultanément et maintenant dans quelques mois avec le jugement qui va être rendu par le tribunal Monsanto, évidemment, avec l'état d'esprit de la procureure, nous espérons que cela permette d'ouvrir des portes et de faire avancer les choses. C'est aujourd'hui la seule cour vraiment internationale, donc il faut absolument qu'elle puisse intégrer les crimes environnementaux et les crimes d'écocide le plus vite possible. Nous n'avons qu'une planète, et comme on le voit avec la COP22, comme on le voit avec les questions de pesticides et d'agriculture, il faut maintenant se dépêcher parce que, j'allais dire, la vie de l'espèce humaine sur Terre devient de moins en moins assurée.
Merci.
Et l'action continue, vous pouvez la suivre sur le web à l'adresse fr.monsantotribunal.org et la soutenir financièrement parce que ça coûte de l'argent de se battre contre un géant comme Monsanto.
Une nouvelle rubrique, une petite rubrique cinéma sur un film qui vient tout juste de paraître. Et ce film est « On revient de loin », sous-titre « Opération Coréa 2 » de Pierre Carle et Nina Faure. Jean-Yves ?
Oui, j'avais envie de partager mon enthousiasme concernant ce film que je viens de voir juste hier, en fait. Ce film est sorti il y a 2 bonnes semaines maintenant. Et donc, il traite essentiellement de la politique en Équateur. Donc, les deux réalisateurs se rendent en Équateur afin de se rendre compte sur place de la politique menée par Rafael Correa. C'est par exemple, le pays a refusé de payer une partie de la dette publique ou encore, grâce à la politique de redistribution mise en place par Correa, la pauvreté et les inégalités ont baissé fortement. Mené comme une enquête, le film nous montre les deux côtés de la médaille. La politique pratiquée par Coréa n'est pas nouvelle, mais sur certains points différente de ce qu'on peut connaître en général. Donc j'invite chaque auditeur à aller voir le film et se faire sa propre opinion. Vous pouvez le voir tous les jours à l'espace Saint-Michel, métro Saint-Michel, Paris 5e.
Et certaines des projections sont suivies de débats avec Pierre-Carl lui-même ou Nina Faure, les réalisateurs. Alors, une dernière actualité un peu triste, c'est le décès de Leonard Cohen ce matin. Alors, nous allons écouter sa chanson peut-être la plus engagée, The Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Bienvenue sur 106.3 FPP. Vous êtes en train d'écouter l'émission Mode d'emploi avec les journalistes du PIAF et les militants d'attaque.
Alors, une autre actualité qui aura lieu le 12 décembre, c'est le procès LuxLeaks. LuxLeaks, c'est quoi? C'est la révélation de centaines d'accords fiscaux entre le fisc luxembourgeois et des multinationales. Ça confirmait un système d'optimisation fiscale à grande échelle. Et optimisation fiscale, c'est un mot un peu gentil pour le Luxembourg. C'est aussi le nom de l'enquête journalistique qui a été menée par la suite et qui a fait un bruit retentissant, une belle déflagration même et de multiples réactions d'indignation à travers le monde. Ce sujet a même permis d'être abordé au G20 ou dans la Commission européenne, et ça, on va dire que ça conduit, j'espère aujourd'hui, à une meilleure justice fiscale. Le 26 avril dernier, au Luxembourg, Antoine Deltour et Raphaël Allette ont été condamnés respectivement à 12 mois et 9 mois de prison avec sursis et des amendes de 1500 et 1000 euros. Ils ont évidemment annoncé immédiatement leur décision de faire appel. C'était eux qui avaient été l'origine de ce lancement d'alerte, comme on dit, LuxLeaks. Et Antoine-Édouard Perrin, lui, était le journaliste qui les a accompagnés et qui n'a pas été, lui, condamné. Il a été acquitté. L'appel aura lieu pour les trois, les deux lanceurs d'alerte et le journaliste. Les organisations évidemment dont Attaque ont jugé le premier verdict scandaleux, considérant qu'il leur est finalement reproché de dire la vérité tout simplement et qu'ils ont rendu un service sans précédent. Beaucoup de gens seront certainement présents au Luxembourg le 12 décembre pour demander non pas simplement qu'ils ne soient pas condamnés mais qu'en plus on les remercie. Il faut penser que la fraude fiscale, ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont nécessaires pour répondre, financer les services publics, répondre à l'urgence climatique, lutter contre les inégalités et la pauvreté, qui sont détournés pour on je ne sais quoi. Alors on va même écouter directement un des prévenus de LuxLeaks nous raconter ça. Il était interviewé dans le cadre du FSM cet été.
L'affaire LuxLeaks a consisté en la divulgation de centaines d'accords fiscaux émis par l'administration fiscale luxembourgeoise. Ces rescrits fiscaux sont sortis en novembre 2014 et ça a lancé un vent d'indignation à travers l'Europe et même au-delà. Ça a mis une pression sur les responsables politiques pour légiférer, pour relancer certains projets en faveur de la justice fiscale. Et cette affaire a aussi valu mon inculpation, ainsi que celle de l'autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais, et du journaliste qui a travaillé sur ces documents en première main, Édouard Perrin. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce jugement, qui est très très paradoxal, puisqu'il reconnaît à la fois que nous sommes des lanceurs d'alerte, que nous avons agi dans le sens de l'intérêt général, et que voilà, ces révélations ont conduit à des retombées utiles et efficaces. Mais par ailleurs, le droit européen et luxembourgeois étant insuffisant selon le tribunal presque à regret se sent contraint de nous condamner. Mais je pense que c'est une mauvaise interprétation, puisqu'il y a quand même des jurisprudences qui existent déjà au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et que tous les tribunaux en Europe sont censés appliquer et qui, dans le cas de Raphaël Allais et de moi, devraient conduire à notre relax. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel. Ce qui est assez difficile aussi ces derniers jours, c'est de l'incompréhension de certains face à cette décision de faire appel. Parce que effectivement, face à une menace de 10 ans de prison et d'un million d'euros d'amende, au final, 1500 euros d'amende et un an de prison, c'est, avec sursis, c'est pas... Certains considèrent que c'est symbolique. Je considère pas être un délinquant et je suis pas spécialement dangereux. Et voilà, si on veut être cohérent et qu'on considère que ces actes-là sont à encourager parce qu'ils sont utiles et qu'ils conduisent à des avancées, bah faut pas nous condamner, quoi. Il y a un moment où je rentre chez moi, je condamne un an de prison, j'ai quand même l'impression d'être jugé comme un délinquant et ce que je pense pas être. Donc c'est aussi une question de principe, quoi. Et aussi un message adressé à d'autres lanceurs d'alerte potentiels. Et ce que je voudrais éviter, c'est que de dissuader des gens qui auraient des informations d'intérêt général et qu'ils les gardent pour eux. On mène un combat de valeurs où le regard qu'on porte sur les lanceurs d'alerte, souvent, il est suspicieux. C'est suspicieux de prendre des risques en faveur de l'intérêt général. Ça veut dire forcément qu'on a un intérêt personnel qu'on souhaite cacher. Là, au moins, le tribunal a reconnu que j'avais touché pas un sou dans cette affaire. Et voilà, je pense que c'est aussi à l'opinion à se saisir sérieusement de ce que c'est que l'intérêt général et des enjeux collectifs. Je pense que les lanceurs d'alerte, ça illustre que des citoyens à la base peuvent contribuer à faire un peu bouger les lignes. Il y a des tas d'alertes à lancer dans tous les domaines et je pense que c'est une vigilance citoyenne, une responsabilité de citoyen de s'intéresser à la chose publique et de pouvoir faire avancer les choses.
Si vous voulez aller soutenir les inculpés lors de ce procès au Luxembourg, et si vous ne connaissez pas Luxembourg, pour 39,90€, évadez-vous pendant 24 heures au Luxembourg. C'est tout organisé, vous prenez un bus, on vous ramène en bus, vous êtes logé en auberge de jeunesse et vous aurez fait une belle visite utile au Luxembourg. Tout ça sur le site d'Attaque France. Et Yaël va nous parler du CETA vis-à-vis de la Wallonie.
Eh oui. Dans notre précédente émission, le 14 octobre, nous avons reçu Frédéric Vial d'Attaque pour nous parler du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Nous étions alors à quelques jours du vote du Conseil européen et le 18 octobre, jour prévu du vote, coup de théâtre, le représentant belge a mis son veto car le Parlement wallon ne l'autorisait pas à engager la Belgique. On a assisté à des pressions énormes sur les Wallons, des menaces de suppression de fonds européens, des menaces des milieux d'affaires. Et finalement, les Wallons ont donné leur accord à la signature de la Belgique, 2 semaines plus tard, mais pas à n'importe quelles conditions. Premièrement, la Belgique a précisé les conditions dans lesquelles elle pouvait ratifier ou pas l'accord. En particulier, elle ne ratifiera pas le CETA si l'ICS, qui est le système de règlement des différends entre les investisseurs et les États, demeurait en l'état. Donc c'est un système qui permet aux investisseurs qui estiment qu'ils perdent de l'argent, enfin qui ne gagnent pas assez de profit à cause d'une décision publique, d'attaquer un État en justice. Et la Belgique va saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la constitutionnalité de cet ICS. La déclaration belge indique aussi qu'elle ne ratifiera l'accord que si aucune de ces régions ou communautés ne subit d'effets socio-économiques ou environnementaux néfastes pendant l'application provisoire du CETA. Ensuite, le Canada et l'Union européenne ont complété l'accord par, je cite, un instrument interprétatif conjoint, qui est un texte juridique une sorte de guide de lecture de l'accord qui est contraignant, mais qui d'un autre côté est trop peu précis pour être réellement engageant. Sur le reste, les déclarations rassurantes de l'Union européenne ou du Canada n'engagent personne, et le flou demeure sur la composition et le fonctionnement de l'ICS, ce pseudo-tribunal, pour régler les problèmes entre les entreprises et les États. En particulier, Frédéric Vial nous avait souligné un problème concernant la déontologie des membres. Là-dessus, on n'a toujours pas de garantie. Alors, au-delà des avancées obtenues par les Wallons, qui finalement sont plutôt minces, les fruits de cette résistance sont en fait dans la suite. Parce qu'on a démontré que la mobilisation contre le CETA paye, et surtout qu'on a forcé le CETA à sortir de la discrétion. C'est-à-dire que le CETA est enfin devenu un sujet politique plus important que le Burkini. Et au mois de novembre, le contraire serait très inquiétant. Et ce n'est pas fini, car même si le Canada et l'Union européenne ont fini par signer le CETA, il reste plusieurs étapes. Le 5 décembre 2016, la Commission commerce international du Parlement européen doit voter dessus. Ensuite, le 14 février 2017, le débat s'ouvrira au Parlement européen pour un vote le 15 février. Enfin, le texte doit être validé par les 27 parlements nationaux, sauf si la Cour de justice de l'Union européenne décide que ce n'est pas nécessaire. Donc la campagne anti-CETA va continuer. Il y a d'abord un travail pédagogique, puisque le CETA, c'est 230 pages, plus 1370 pages d'annexes, et encore plusieurs centaines de pages issues des différentes déclarations interprétatives suite au bras de fer entre la Wallonie, l'Europe et le Canada. Donc, comme en 2005 avec le traité constitutionnel européen, ATTAC va faire une version lisible du texte de manière à ce que les citoyens puissent s'approprier ce texte et en débattre. Et puis, il va falloir interpeller nos députés qui généralement n'ont pas lu l'accord plus que nous et qui se contentent de la bonne parole gouvernementale. Pour ça, vous avez un outil très simple sur le site web stop-ttip.org. Vous indiquez votre code postal et pour chaque député de votre région, le site indique si il ou elle s'est engagé à voter contre le CETA. Et dans le cas contraire, il n'y a qu'à cliquer sur un bouton pour lui demander de s'engager à voter contre.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que les Wallons se sont fait avoir sur cette analyse, ou est-ce qu'on peut considérer que ce sont eux qui vont nous sauver ?
Finalement, les Wallons n'ont pas gagné grand-chose, mais ils ont montré qu'une résistance était possible contre le CETA. Et ils ont ouvert des portes pour la suite.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir la chose autrement, avec un petit peu de cynisme, en considérant que les Wallons démontraient un peu malgré eux que finalement leur opposition était purement opportuniste et que finalement ils sont partis sur des grands principes, mais ils ont accepté de se rendre pour un accord qui ne change pas grand-chose au traité.
Le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette, c'est ça, n'est pas un révolutionnaire. Il n'a jamais caché qu'il était favorable à un accord, mais il voulait bien un accord à certaines conditions. Et on peut dire qu'il a obtenu satisfaction sur une partie des points qu'il réclamait. Alors sur certains points, comme la défense des services publics, je pense qu'il a obtenu surtout des promesses qui n'engagent personne, mais sur l'ICS et sur les conditions de ratification de la Belgique, je pense qu'il a obtenu quelque chose de valable.
Alors, en hommage aux Québécois, on va écouter une chanteuse non québécoise, mais qui imite très bien le Québécois, Anaïs.
Bonsoir. Même si le vice pour du foie gras, ni même de la mousse de canard, si ça atteint un hasard semblé à de la bouillie ou du navet, je crache pas dans la soupe, c'est comme ça. Même si
bienvenue sur 106.3 FPP, vous êtes en train d'écouter l'émission Mode d'emploi avec les journalistes du PIAF et des militants d'ATTAC.
Et une actualité dont on reparlera prochainement, parce que c'est une actualité de janvier, puis que le 9 janvier prochain, il y aura encore un autre procès, ça sera celui de John Pallet, qui a été mis en examen pour vol en réunion. Oui, un vol en réunion pour suite d'une vol d'une chaise. Vous savez, des petites chaises en plastique qu'il y a dans les salles d'attente des banques. Très exactement, une agence BNP Paribas, il avait emprunté, volé cette chaise en octobre dernier.
Mais tu te rends pas compte, ça c'est du grand banditisme.
C'est du grand banditisme.
Vol en réunion.
Il s'agit en fait du premier faucheur de chaises poursuivi en justice. Alors les faucheurs de chaises, on en a déjà parlé, on en reparlera, car il y a une grande action qui est lancée ce mois de novembre, encore une fois un peu différente. Ça sera plus faucher des chaises, ça sera occuper des agences de banque. L'idée, c'est une phase d'action de désobéissance civile pour faire comprendre que les criminels, c'est pas les gens qui essayent justement de faire du bruit comme LuxLeaks ou les faucheurs de chaises, mais c'est ceux qui ont l'impunité fiscale, mettre en lumière tout ce qui pourrait être financé par toute l'évasion fiscale organisée par les banques, mobiliser les gens autour de ces petits vols de rien du tout, c'est quand même quelque chose d'important. Alors on continue sur l'agenda un peu plus récent, vu qu'on va faire l'agenda de ce mois de novembre. Et par exemple, Alex, demain.
Eh bien demain, donc samedi 12 novembre, à 9h du matin, si vous êtes matinal, à l'antenne de Vie de Quartier de Gaston Loriot à Montreuil dans le 93, il y a les deuxièmes rencontres nationales contre le crime atomique. Et donc, à partir de 9h, on va discuter du moyen d'arrêter de porter atteinte à la santé et à la vie par les rejets radioactifs permanents, que ce soit par les centrales nucléaires et évidemment les bombes. Et Dieu nous préserve qu'il y en ait une qui tombe un jour. Voilà, donc je rappelle, samedi 12 novembre, quartier, antenne de vie du quartier Gaston Loriot à Montreuil, à 9h.
Si vous êtes moins matinal, à 14h, le même samedi 12 novembre, place de la Bastille, un appel à manifester pour dénoncer le régime d'Erdogan et les arrestations à l'encontre du HDP. C'est organisé par la Confédération des immigrés opprimés d'Europe, qui condamne fermement la mise en garde à vue, notamment de Gülten Kizanak et Firat Hanli.
Le samedi 12 novembre à partir de 16h30 à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, une soirée à contre-courant du discours dominant alimentant la peur et le rejet de l'autre, une soirée pour promouvoir des actions individuelles ou collectives de solidarité. Donc ça commence avec du théâtre, avec une pièce qui s'appelle « Vraiment un homme » à Sandgate. Ensuite, à 18h30, il y aura une lecture avec Marie Cosnet de fragments littéraires d'expériences solidaires de résistance. Et enfin, une clôture en musique avec Fawaz Baker, oudiste syrien en solo.
Toute petite remarque, c'est Sangatte, c'est en France.
Alors, en France, il y a aussi la ville de Bure, où une volonté politique voulait enfouir les déchets nucléaires un petit peu profondément, mais pas tant que ça, dans le sol de cette petite commune. Si vous voulez aller les soutenir, il y aura un week-end à Bure le 11 au 13 novembre. Entre autres, le dimanche 13 novembre, à partir de 10h30, il y aura un chantier barricade agricole à la gare de Luméville. Et dès le vendredi, il y aura les rencontres francophones du réseau Reclaim the Fields à la Maison de la Résistance de Bure. En fait, cet été, il y a eu une petite première victoire, vu que les travaux d'enfouissement ont été arrêtés, mais depuis 10 ans que le projet a été lancé, l'agence Andra, qui doit en faire cet enfouissement, s'est accaparée plus de 3000 hectares de terrain. Dans ces champs, les travaux ont débuté, néanmoins avec des premiers forages et des fouilles sur 300 hectares qui ont été retirés de l'usage agricole. L'idée du dimanche 13 novembre, c'est d'aller tout simplement entretenir les champs et construire des barricades et des haies tout autour.
Et alors dimanche 13 novembre à 10h45 au cinéma Majestic Bastille de boulevard Richard Lenoir à Paris, donc il y a la projection débat du dernier documentaire de Sylvia Mount, Affectados, Restez debout. Et donc c'est un documentaire sur les personnes qui se sont retrouvées en situation de surendettement en Espagne, à Barcelone. La projection sera suivie d'un débat sur le thème « Réinventer collectivement le droit au logement ». Et donc, c'est organisé avec des représentants d'ATTAC et de Podemos.
Ce même dimanche 13 novembre à 17h, à la bibliothèque La Rue, 10 rue Robert Planquette, toujours à Paris, projection débat « L'urgence de ralentir ». C'est un documentaire de Philippe Borel dans le cadre de La Lanterne Noire, ciné-club du groupe Louise Michel.
Le lendemain, lundi 14 novembre à 17h30, commence une semaine de réjouissance pour l'anniversaire, les 40 ans, du CICP, le Centre International de Culture Populaire. Donc c'est 21 Terre, rue Voltaire à Paris.
Et on a reçu cette association il y a 2 ans, RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Ils feront une intervention, réunion publique à la Teinturerie, 24 rue de la Chine, mardi 15 novembre prochain. Et c'est la fin de l'émission. Nous pouvons remercier tous les intervenants, Patrick, Gaël, Alex et Jean-Yves au micro, et puis à la technique, encore Jean-Yves, Sylvain et surtout Claude qui nous a ouvert la radio aujourd'hui. Et pour terminer, nous écoutons évidemment Leonard Cohen et la grande chanson « So long, Marianne ».
Come over to the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I